À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une émission d'Alain Battier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, ce soir, on va parler d'une bande dessinée, une bande dessinée de Jérémy Perraudeau.
Ouais,
qui s'appelle Crépuscule. Mm-hmm. Une bande dessinée que, évidemment, bien sûr, nous vous conseillons vivement de la lecture parce que c'est une réussite assez exceptionnelle. Il ouais. faut dire que l'album est très beau. Ça, déjà, et qu'il y a vraiment une force narrative qui est prenante, alors qu'il y a...
C'est assez ténu comme argument.
Voilà. Mmh. Hein, et qu'il y a quand même une dimension quand même un peu expérimentale. Alors déjà, avec la jetée de Chris Marker, on a parlé d'expérimentation, d'œuvre expérimentale. Mais là, on peut dire de Jérémy Perraudeau, qui fait une œuvre assez expérimentale.
Tout à fait, oui.
Parce qu'il nous propose une esthétique qui est quand même très singulière. Qu'est-ce que tu peux en dire, Alain,
de cette esthétique?
Oui, l'esthétique de...
Bah, c'est un dessin quand même assez minimal où les personnages sont à peine caractérisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de visage par exemple, on les reconnaît que par des signes, une barbe, une queue de cheval, une tête d'androïde, ce genre de choses. C'est un dessin très précis parce que c'est dessiné au rotring, hein, donc c'est un trait très régulier et très fin. Et Jérémy Perraudeau explique qu'il travaille sur des petits formats. Et en plus, c'est un travail qui met en rapport des formes organiques avec des formes géométriques. Hein, parce que Jérémy Perraudeau explique aussi qu'il est fasciné par ça, notamment par le land art, les bunkers, ce genre de choses. Il dit qu'il y a forcément un lien très fort entre une forme géométrique pure et des formes organiques. Quoi. Donc, il dit que pour travailler sa bande dessinée, il est parti aussi pas mal de peintures, de paysages qu'il a réinterprétées avec justement des éléments assez simples comme des lignes, des triangles, des carrés, des ronds, une espèce de boîte à outils, comme il dit, qui permettait de retraduire ces tableaux.
Oui, il part d'éléments géométriques extrêmement simples hein, pour petit à petit complexifier et construire l'univers dans lequel se trouvent les personnages.
Oui, tout à fait.
Il faudrait dire pas l'univers, mais les
univers. Les univers, effectivement, on a un droit à la traversée de deux mondes différents, mais aussi qui se retrouvent, qui se percutent en quelque sorte.
Oui, qui se perturbent l'un l'autre.
Surtout un qui perturbe l'autre.
Un qui vient d'ailleurs et qui perturbe l'autre.
Tout à fait.
Donc, voilà... Un livre assez étonnant, Crépuscule. Nous, on peut se poser la question, peut-être, voilà, Crépuscule, mais pourquoi ce titre hein? On pourrait le demander à Jérémy Perraudeau. Pourquoi il a choisi ce titre?
Alors, hein? Il ne le dit pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'entretien où il explique la tenue de ce titre, mais on pourrait penser qu'il s'agit du crépuscule d'un univers, puisqu'effectivement, comme on le disait, il y a un univers qui va petit à petit contaminer un autre. Et dans les dernières images qu'on voit, ce sont des espèces de, comment on appelle ça, des chaînes d'astéroïdes qui commencent à être contaminées aussi par des formes géométriques. Et on peut supposer que toute cette contamination va petit à petit gagner tout l'univers, quoi. Et donc c'est la fin de tout un cosmos. D'où le titre Crépuscule. Enfin, moi, je l'interpréterai comme ça.
On pourrait dire les fondements d'un monde.
Oui, c'est plus que d'un monde. C'est vraiment tout un univers.
Les fondements d'un univers.
Ouais. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, surtout au vu des dernières images. Quoi.
Alors, ce qui nous est raconté, c'est en fait donc, un personnage au tout début de la bande dessinée qui s'appelle Lincoln.
Oui, Lincoln, hein, ouais, le garde forestier. Ouais.
Voilà, et qui, tout d'un coup, observe lui qui est sur cette nouvelle planète. En quelque sorte.
Une planète qui a été terraformée, hein, faut le dire aussi.
Il observe des manifestations étranges de la nature, hein, des transformations étranges, des contaminations.
C'est ça.
Hein, et petit à petit, il va chercher à progresser pour comprendre d'où ça vient.
Ouais, trouver la source.
Trouver la source de la contagion.
La contagion, ouais. C'est-à-dire que les formes organiques, les pierres ou les arbres, les plantes sont altérés par des formes géométriques. Et plus ils s'approchent de ce centre, plus cette contamination est importante et plus les formes géométriques deviennent immenses. Et il va arriver effectivement jusqu'à une espèce de point central où il va disparaître.
Alors, je ne sais pas si j'ai pas bien compris la bande dessinée, mais la question de la matière de ces formes géométriques n'est pas posée.
Effectivement, et même... Il y a un truc qui est assez curieux, c'est que à deux moments, je crois, dans la bande dessinée, les personnages touchent un de ces objets-là et il disparaît. Il se désagrège. Ouais. Et alors, c'est assez curieux parce que ça n'arrive que deux fois. Après, par la suite, ils en toucheront d'autres. Ouais. Et même, il faudra bien, puisqu'ils veulent survivre dans cet autre univers, puisqu'à un moment, ils vont passer dans ce second univers, il faudra bien qu'ils mangent...
Quelque chose,
donc ça ne désagrège pas. Mais il y a une espèce de premier contact où le... Comme si c'était pas réel, quoi.
Si c'était immatériel.
Immatériel, ou peut-être de l'antimatière, j'en sais rien. Non, parce que si c'était le cas, il aurait été désintégré lui aussi.
Oui.
Mais ouais. c'est pas très clair, cette histoire-là. On se demande pourquoi ce contact-là, quand il essaye de toucher cette forme organique qui s'approche de lui, celle-ci, tout d'un coup, se désintègre, et ensuite, ça n'arrive plus.
Donc, voilà, il y a ce personnage de Lincoln qui remonte donc jusqu'à l'origine.
Une espèce de vortex,
ouais. Mais, il est en relation, en communication avec un
vaisseau. Grand central.
Voilà.
Une station orbitale.
Voilà, une station orbitale, mais petit à petit, la communication se fait de plus en plus...
difficile.
Défaillante, difficile. Et à un moment donné, quand il est très proche donc, de l'origine de la... contamination, la perturbation, la communication va être arrêtée.
Mmh. La communication est arrêtée et lui, il va finir par disparaître. Mmh. C'est-à-dire que les deux personnes qui sont restées en orbite n'arrivent plus à rentrer en contact avec lui et décident donc d'aller voir ce qui se passe.
Ouais.
Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et ensuite, on se retrouve une semaine plus tard où c'est une autre équipe qui arrive, deux androïdes et deux humains, parce qu'ils n'ont plus du tout de nouvelles de cette station, cette fameuse station orbitale, plus personne ne leur répond. Et effectivement, quand ils arrivent dans la station, il n'y a plus personne. Quoi. Voilà. Donc, là, c'est là vraiment que l'histoire commence.
Oui, et c'est là aussi où ils décident
d'aller sur la planète,
essayer
de les retrouver.
Essayer de les retrouver et de voir ce qui se passe dans cette planète.
Oui.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette planète qui fait que tout d'un coup, ils ont perdu Lincoln, mais les autres? Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils vont se rendre compte que quoi? Que leur carte...
effectivement, ils ont une carte au départ pour essayer...
Pour pouvoir se repérer.
Voilà, parce que l'idée, c'est que sur cette planète, il y a un abri qui a été construit avec un émetteur. Donc, il s'agit ils pensent qu'effectivement, les deux autres de la station orbitale sont certainement rendus là pour se mettre à l'abri. Et donc, ils cherchent à rejoindre cet abri. Et ils ont beau marcher, comme le dit un moment, je ne sais plus lequel des deux, c'est Carl ou Otto, enfin des deux androïdes, il dit on a beau se rapprocher, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus par rapport à sa carte, quoi. Mmh. Ils n'arrivent pas donc à arriver à cet abri jusqu'à un moment où ils se rendent compte qu'en fait la carte ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont sous les yeux, quoi. Ils sont complètement étonnés.
Parce que le monde a changé.
Voilà, Otto fait une espèce de triangulation pour essayer de repérer les massifs, les rivières, etc. Et il s'aperçoit qu'effectivement, le monde a changé et qu'il continue de changer. Très, très, très lentement, mais tout se déplace. Tout l'espace, toute la configuration géographique, géologique, est en mouvement. Très lent, mais en mouvement quand même. Et donc, leur carte est complètement obsolète. Et, ils s'y prennent autrement pour arriver à ce fameux abri.
Ils vivent, en fait, ils arrivent dans un monde dans lequel tout est instable.
Toutes les lois de la physique sont complètement perturbées.
Tout est en devenir, tout est en mouvement, tout est en changement.
Là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, l'espace, effectivement, est perturbé, est en changement, est en mouvement, est contaminé par ces formes géométriques. Et un peu plus tard, ils vont s'apercevoir, c'est pas seulement l'espace, mais c'est aussi le temps. C'est le temps, parce qu'eux, ils sont arrivés une semaine plus tard que les deux autres. Ouais. Et les autres, ils leur disent que ça fait 8 mois qu'on est là. Ouais. Donc, il y a aussi un décalage. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a un décalage. Ils comparent leur montre et effectivement, elles n'ont pas du tout le même temps, quoi. Donc, il y a aussi le temps. Tout ce qui relève des lois de
la physique,
de la physique semble complètement sans dessus dessous.
Donc ça, c'est absolument fascinant parce que quand on lit la bande dessinée, on est pris avec les personnages.
Oui.
Et on se demande comment ils vont pouvoir se sortir c'est une espèce de labyrinthe puisque ils sont dans un monde qui ne cesse de changer. Mm-hmm. Et par rapport à quoi ils peuvent plus se repérer.
Oui, ils peuvent plus se repérer. Et en plus, même s'ils arrivent à rejoindre leur temps, ils ne seront plus dans leur temps. Enfin, ils vont être complètement décalés par rapport... Puisque le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon. Hein, parce qu'ils disent, eux, ça fait quelques heures qu'ils sont là, enfin quelques jours. Et pour les autres, ça fait 8 mois quoi, qu'ils sont là. Donc il y a un décalage énorme entre un temps extérieur, on va dire, à la planète et le temps de cette planète, qui va encore s'aggraver ensuite quand ils vont passer dans l'autre univers. Quoi.
Alors, il faut parler un petit peu des personnages. Hein, donc il y a le fameux Lincoln dont on a déjà parlé qui disparaît. Mm-hmm. Les deux autres personnages aussi de la station orbitale qui disparaissent en quelque sorte.
Ouais. Et qu'ils retrouvent après.
Oui, hein. Qu'ils vont retrouver. Mm-hmm. Et il y a ces quatre personnages principaux.
Voilà, c'est surtout eux qu'on va suivre.
C'est eux qu'on va suivre et auxquels on va être amené à s'identifier en quelque sorte. Mm-hmm. Alors il y a deux androïdes.
Ouais, Carl et Otto.
Voilà. Ouais. Et il y a deux humains.
Sophia et Paul.
Voilà. Mm. Et donc on va les suivre et puis à un moment donné ils vont se séparer, ils vont être séparés.
Oui, ça c'est au moment justement où ils vont plonger dans le vortex où d'où sont issues toutes les perturbations dont on a parlé. Il y a trois vaisseaux en fait qui se suivent à quelques secondes l'un de l'autre et en traversant ce vortex, effectivement, ils vont se trouver complètement séparés et on va suivre que Paul, alors je ne sais plus si c'est Otto ou Carl, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est Carl, mais je ne suis pas sûr, enfin un des deux androïdes en tout cas. Ouais. Qui vont se retrouver dans ce nouvel univers complètement géométrique. D'abord, c'est une espèce de désert de sable. Hein, ils se sont écrasés dans le désert. Et ils avancent dans le désert et petit à petit apparaissent des formes géométriques. Et puis de plus en plus, le sable va disparaître et va laisser place à toutes ces formes un peu là. Donc, ces formes simples. Et c'est aussi peuplé de créatures un peu étranges, un peu filiformes. Enfin, c'est très curieux. Et donc, on ne sait pas trop où ils vont, mais enfin, on suppose qu'ils cherchent justement leurs compagnons qui sont aussi passés à travers le vortex. Et donc, ils errent comme ça. Cette bande dessinée, c'est vraiment une espèce de... C'est plus une exploration de monde qu'une histoire, on pourrait dire, avec plein de péripéties. Tu vois, il y a un côté quand même très, très contemplatif aussi. On suit des personnages qui marchent, en fait. Dans la plupart du temps de l'album, c'est de ça dont il est question, quoi.
Oui, et puis un des personnages principaux, sinon le personnage central de la bande dessinée, c'est le paysage.
Oui, tout à fait. Oui, c'est surtout ça dont il est question. C'est le paysage du premier monde d'où ils viennent. Et ensuite, quand ils ont traversé le vortex, ce second monde qui change de couleur aussi. Parce qu'on n'a pas dit, il y a tout un jeu sur les couleurs aussi. Parce que le premier monde est représenté dans des tons rouges et orangés. C'est une espèce de bichromie qui permet aussi de donner un peu d'épaisseur au dessin et une forme de perspective. Et ensuite, quand ils passent dans ce sens, c'est un monde bleuté, un monde assez froid, un peu glacé. Et puis il y a un troisième monde dont on pourra peut-être parler aussi qui est un monde jaune et qui lui est un monde plutôt archaïque ou premier on pourrait dire où vit une espèce de peuple premier qui pratique des rituels qui semblent en fait utile pour contrôler certains phénomènes un peu bizarres comme une espèce de puits de pierre là, en lévitation à un moment. Alors au début, on ne comprend pas très bien quel est le lien avec l'histoire, mais bon, peut-être qu'on en parlera de tout à l'heure. Enfin bref.
En tout cas,
le paysage effectivement. Le paysage est vraiment très important.
Est extrêmement important. Donc il y a l'espace, à travers la question d'un paysage qui est tout le temps en quelque sorte en transformation. Et il y a forcément, comme dans tous livres de science-fiction ou dans toutes les œuvres de science-fiction, la question du temps. Du temps, et à un moment donné, quand ils arrivent et qu'ils rejoignent donc l'androïde...
Qui était avec Sophia,
ils apprennent que Sophia est morte déjà depuis...
15 ans,
depuis,
ouais. Depuis lui, ça fait 80 ans qu'il est là.
Voilà.
Alors que eux, ça fait que quelques jours, quoi.
Voilà. Donc, ils sont dans des espèces de décalage temporel et ils n'arrivent plus à se réajuster.
Ouais, enfin, en même temps, ils s'organisent, ils arrivent à vivre. Enfin, déjà, Sophia et l'androïde ont construit toute une espèce de enfin, vraiment, comment je pourrais appeler ça, tout un centre, un complexe où ils cultivent des plantes, enfin, des plantes du coin, qui ont toutes des formes un peu bizarres, géométriques, et qui utilisent ces espèces de bestioles un peu étranges. Et ils ont réussi à s'organiser une petite vie. D'ailleurs, l'androïde qui a vécu avec Sophia a dit qu'en fait, elle est morte sereinement. Quoi. Ouais, et puis de façon tout à fait sereine. Ils n'ont pas mené une vie. Ça n'a pas été. Comment je pourrais dire, une vie pénible, une vie très dure. Ça, apparemment, ça s'est bien passé. Mais bon, elle a vieilli. Et lui, l'androïde, même là, il ne vieillit pas. Donc elle est morte et lui a continué à vivre. Mais il explique qu'en fait, il attendait Paul et l'autre androïde. Alors tout ça parce qu'en fait ils ont découvert Lincoln. Il explique qu'à un moment ils ont découvert Lincoln qui était en fait un squelette, hein, qui était mort depuis longtemps. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait un décalage temporel énorme entre eux et Lincoln d'une part, et certainement aussi entre eux et ceux qui les suivaient. Parce que c'est le premier vaisseau à s'être écrasé. Et le vaisseau qui les suivait, donc c'était Paul et l'autre androïde. Ils ont compris qu'il y avait certainement plusieurs décennies de décalage. Donc ils attendaient effectivement qu'ils arrivent.
Thank you.
la solution, en fait, c'est se
cryogéniser. Oui, parce qu'il y a un troisième vaisseau.
Pour attendre, en fait.
Pour attendre pour l'arrivée du troisième vaisseau.
Voilà, ouais. Et pour que les temps, en fait, se rejoignent.
Voilà, pour que Paul puisse effectivement rejoindre le temps des deux autres de Grand Central. Deux agents de Grand Central.
Parce que bon, les androïdes, eux, de toute manière, le problème ne se pose pas pour eux.
Le temps
se pose. Mais pour les humains.
Pour Paul, ça se pose.
Ouais. Oui. Mmh. Donc, il va devoir subir cette cryogénisation pour arriver à retrouver le temps des autres.
Voilà, ils avaient bien pensé le faire pour Sophia, mais ils n'avaient pas le matériel.
C'était pas encore
pour ça. Voilà. Non, c'est pas que c'est pas au point, c'est qu'ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas assez de matériel pour le faire. Et c'est parce que l'autre vaisseau s'est écrasé, qu'ils ont pu récupérer les pièces donc du vaisseau de Paul, et avec ces pièces-là, effectivement, terminer, achever le dispositif de cryogénisation.
Donc là, on voit un petit peu l'histoire de ces quatre personnages où tous ces personnages, leurs aventures, c'est des errances, en fait, à la fois dans l'espace, ce paysage qui ne cesse de changer, et dans le temps, des temps qui ne cessent de se disjoindre et de se désaccorder. Mmh. Alors, le livre de Jérémy Perraudeau, c'est pas simplement un film de science-fiction sur les problèmes spatio-temporels. On voit qu'il y a quand même une dimension politique dedans, engagée.
Oui, à travers l'histoire en jaune, on peut effectivement avoir cette lecture-là où on comprend qu'en fait... un peuple sur cette planète-là, donc, qui a été terraformée, vivait avant apparemment un peuple premier qui pratiquait certains rituels parce que, explique un des membres de cette peuplade, cette planète est à l'intersection de plusieurs dimensions. Et pour éviter que ces dimensions ne se télescopent, il leur faut pratiquer des rituels pour que les choses restent en place. Et le problème, c'est que c'est ce qui donnera donc naissance à Grand Central. Les humains vont, pouvoir terraformer cette planète, vont éliminer toute la population de la planète.
Voilà, pour pouvoir, on est là dans une colonisation.
Ouais, une colonisation brutale, violente et puis radicale, parce qu'effectivement, il n'y a aucun survivant, quoi. Et donc, ils terraforment leur planète, tout ça pour des visées expérimentales, puisqu'il s'agit de superviser l'évolution, de comprendre comment se passe l'évolution. Il explique que c'est un grand projet universel. Il y a plusieurs planètes comme ça où ils suivent l'évolution des choses pour essayer de comprendre comment ça marche, quoi. Et ils vont donc jusqu'à éliminer une population entière pour pouvoir mener ces expériences-là. Donc effectivement, il y a aussi cette dimension politique. Ouais.
Et évidemment, ça nous renvoie donc à la confrontation entre notre culture hyper-technologique, hyper-technique. Mm-hmm. Ça nous amène à nous questionner nous-mêmes sur ce qui s'est passé dans notre propre monde.
Oui, face à des populations chamaniques.
Chamaniques, que ce soit les aborigènes australiens ou les Indiens d'Amazonie ou les Indiens d'Amérique du Nord qui avaient des rituels chamaniques. Ouais. Et
qui avait peut-être finalement un rôle, un sens, une fonction qu'on ne peut pas supprimer comme ça. C'est un peu ce que dit l'histoire. Peut-être que si on supprime tous ces rites...
Si on supprime aussi toute cette connaissance de la nature et des équilibres naturels, en effet, le risque de la destruction de tout ça, c'est qu'on perde le sens de ces équilibres et qu'on finisse par détruire complètement.
Oui, c'est ce qui
se passe. Donc, en tout cas, dans le livre de Jérémy Perraudeau, ça nous renvoie presque directement. On a vraiment l'impression qu'il s'agit des Indiens d'Amérique.
Oui, il y a un peu de ça.
Et que ce qui arrive, c'est l'espèce de... Voilà, d'Européens ou d'hommes avec...
Oui, surtout que dans les Jean Perraudeau, ils les tuent sans le moindre état d'âme. Hein. Ça leur pose absolument aucun problème. Hein. On a l'impression qu'il n'y a aucun sentiment, aucune émotion. C'est une espèce de geste presque chirurgical, si on peut dire. Enfin, voilà,
oui, qui s'élimine de la vermine, quoi.
Ouais, même pas. Il n'y a aucune passion, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. ils nous dérangent, on les supprime, quoi. C'est pas très grave, c'est pas important.
Soyons rationnels.
Oui, soyons rationnels. On a une expérience à mener, ils vont pas nous emmerder, quoi.
Voilà. Donc c'est amusant parce que on pourrait faire des parallèles, bien sûr, notamment avec la guerre des mondes, mm-hmm. avec ces êtres extraterrestres qui viennent exploiter la Terre, le monde, et qui tuent de manière complètement, comment on pourrait dire, sans passion non plus, mm-hmm. les êtres humains, puisqu'ils vont exploiter ces êtres humains, leur sang, dans la guerre des mondes.
Donc ça, c'est Spielberg, ça.
Oui, je pensais à Spielberg en particulier, mais on retrouve des monstres venus d'ailleurs qui détruisent l'humanité, et ceci sans passion ni aucune émotion, en fait.
Ouais.
Hein, c'est comme, à la limite, nous, quand on exploite les animaux, mm-hmm. et qu'on va les tuer sans passion ni sans sentiment, mm-hmm. hein, puisqu'on va se nourrir d'eux, on va les exploiter. Est-ce que, je ne sais pas si tu vois le parallèle, c'est intéressant parce que, en fait, les livres ou les films de science-fiction nous amènent à réfléchir sur, en fait, ce que l'on fait.
Oui, ce que l'on fait, et puis sur ça nous amène à réfléchir sur des choses qui nous apparaissent comme des évidences. Et quand tu les mets comme ça en scène, dans des espèces de récits qui jouent sur l'espace, le temps, la technique, etc., tu t'aperçois que c'est pas, tout ça, c'est des constructions. Ce n'est pas si évident que ça. Et que si ça a été construit, ça peut donc être déconstruit et on peut donc faire autre chose.
Oui, puis on peut détruire.
Oui, aussi, c'est la solution de facilité. Mais...
Oui, après, c'est ce qu'on appelle tous les essais de transformation sur les plantes, sur les organismes vivants. On se rend compte que ça va avoir des effets dévastateurs.
Mm-hmm.
Hein, les essais génétiques, les transformations du maïs, etc.
Là, tu parles des OGM. Là.
Oui, les OGM. Hein. Okay. On voit que cette transformation va avoir des effets sur la santé des hommes.
Oui,
on ne peut pas modifier de manière sans conséquence, mm-hmm, hein, mm-hmm. La nature de manière aussi radicale sans avoir d'effets, de conséquences sur l'humanité.
Mm-hmm.
Il y a cette idée dans le livre de Jérémy Perraudeau que la transformation du monde, l'intervention dans un monde qui n'est pas le nôtre et qui est un monde étranger, en quelque sorte, le fait qu'on va venir perturber l'ordre naturel va amener ce monde à s'effondrer.
Tout à fait. Hein. Oui, il fait plus que... Enfin, c'est pas seulement le monde là, qui s'effondre, c'est vraiment, dans le bouquin de Perraudeau, à mon avis, c'est tout l'univers. Il y a une contamination qui se fait et qui est vraiment totale et absolue, quoi.
On ne peut pas l'arrêter.
On ne peut pas l'arrêter.
On est dans quelque chose...
Non, parce que de toute façon, les savoir-faire qui permettraient de l'arrêter ont été éliminés avec ces peuples premiers.
Et les savoir-faire, qui seraient à l'origine de l'équilibre des mondes, en fait, sont détruits. Parce qu'ils sont considérés comme irrationnels.
Oui, parce que ça allait à l'encontre de leurs intérêts ou de ce qu'ils voulaient faire. Donc... ces peuples, je ne sais pas comment le dire, mais effectivement, ils comptent pour rien, quoi. Ils n'imaginent pas un seul instant que ces peuples premiers puissent participer à un équilibre. Ça, ils ne peuvent pas le concevoir.
Et que cet équilibre, il est fragile.
Il est fragile.
Il est extrêmement fragile et qu'il ne suffit pas de grand-chose, en fait, pour le détruire.
C'est ça. Mais c'est ce que dit un des membres de ces peuples premiers, à un moment, il y aura des conséquences, peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver. Et c'est effectivement ce qui se passe. Les conséquences n'ont pas lieu tout de suite, mais effectivement, ça arrive. Quand Lincoln découvre ce qui se passe dans sa forêt, c'est le début de la fin.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà.
D'accord.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.